dans Dire et des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une exposition qui nous fait voyager dans l'espace et dans le temps. On y croise des guerriers amérindiens, quelques odalisques sensuels, des marchands du souk, des pèlerins à Djeddah, des explorateurs comme Savornian de Brazza, mais aussi des antilopes, un tigre et des amoureux prénommés Paul et Virginie. D'une salle à l'autre, on passe du jaune du Sahara au vert de la forêt guyanaise, des encres de Paul Crampel ou Louis-Robert Batte, aux huiles de Fernand Lantoine, en passant par les pastels de Paul Mascart. Pour la première fois depuis son ouverture, le musée du Quai Branly Jacques Chirac consacre une exposition à sa collection de tableaux, des peintures, qui nous montrent l'évolution du regard occidental sur les contrées et sur les peuples d'ailleurs, d'Afrique et d'Océanie, des Amériques et d'Asie. L'exposition Peinture des Lointains est à visiter jusqu'au 6 janvier 2019 et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Sarah Ligné.
Bonjour.
Vous êtes la commissaire de l'exposition, vous êtes aussi la responsable de l'unité patrimoniale, mondialisation historique et contemporaine du musée. Alors c'est vrai que quand on évoque le musée du Quai Branly Jacques Chirac, on ne pense pas forcément à des tableaux. De fait, c'est la première fois que vous les exposez en tant que tel. Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps ?
C'est en effet une part tout à fait singulière de la collection. Le musée du Quai Branly, c'est le musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique et d'Asie. Mais il y a aussi au sein des collections de nombreuses œuvres européennes, des œuvres produites par des Occidentaux qui ont voyagé ou non sur d'autres continents, mais qui ont imaginé l'ailleurs et l'autre. Et l'exposition inaugurale du musée du Quai Branly en 2006 traitait déjà de ce regard européen porté vers la D'ailleurs, cette exposition s'appelait « D'un regard l'autre ». Donc c'est une thématique qui traverse à la fois la collection, mais aussi les expositions. Et montrer cette collection de peintures, ça a été un long cheminement. D'abord parce que c'était une collection largement méconnue. Donc il y a eu beaucoup d'études, de recherches en archives pour retrouver le parcours de ces artistes, dont beaucoup étaient tombés dans l'oubli. Et il y a eu aussi un grand travail matériel, une grande restauration, une grande campagne de restauration des œuvres de la collection. Alors ça va du simple dépoussiérage à des interventions beaucoup plus poussées.
Alors quelle est l'étendue de cette collection, Sarah Ligné ?
Cette collection comprend plus de 500 tableaux. 120 sont montrés dans l'exposition et ils sont accompagnés de nombreux dessins, aquarelles, gravures. C'est aussi une façon de montrer la richesse de ces fonds graphiques qui ne peuvent guère être montrés sur un temps long, parce que ce sont des œuvres sensibles et fragiles à la lumière. Et d'ailleurs, l'exposition dure près de 11 mois et il y aura de nombreuses rotations des œuvres graphiques. Donc,
d'accord,
il faut venir visiter et revenir voir l'exposition.
Alors, donc, ce sont essentiellement des œuvres 19e siècle. Ça démarre 1830, je crois, c'est ça, jusqu'aux années 30.
Ce sont des œuvres datées entre la fin du 18e siècle et le milieu du 20e siècle, pour la plupart.
Alors, comment est-ce qu'elle s'est constituée, cette collection ? Parce que le musée du Quai Branly a repris des œuvres qui se trouvaient dans d'autres institutions et notamment le palais de la Porte Dorée, hein, l'actuelle cité de l'immigration.
Oui, à sa création, le musée du Quai Branly a hérité de deux collections. La collection d'art extra-européen, d'ethnographie extra-européenne du musée de l'Homme et la collection conservée au palais de la Porte Dorée dans ce qui était le musée des arts d'Afrique et d'Océanie. Mais ce musée ne s'est pas toujours appelé comme ça. Lors de sa création en 1931, c'était le musée des colonies, devenu musée de la France d'outre-mer. Et cette collection de peintures, son âge d'or, ce sont les années 30 à 60 au sein de ce musée colonial au palais de la Porte Dorée.
Alors on se dit quand on est visiteur de cette exposition qu'on est quand même très loin des arts premiers. Alors je sais bien que le musée du Quai Branly n'est pas uniquement le musée des arts premiers, mais c'est quand même l'image qu'on a encore de lui. En quoi ces peintures-là s'inscrivent-elles dans le projet culturel du musée ?
Ces peintures paraissent en effet très très singulières par rapport à la destination même du musée, mais elles sont en dialogue étroit avec les œuvres, de ce qu'elles disent aussi de ce regard européen porté sur d'autres continents. Elles éclairent aussi la constitution des collections du musée. Elles documentent, elles illustrent des aspects qui sont moins présents à travers les œuvres africaines ou océaniennes. Je pense par exemple au tatouage et aux différents motifs du tatouage rituel en Océanie, c'est pas quelque chose qu'on peut conserver facilement, et on le voit très bien dans les représentations, qu'elles soient peintes ou dessinées, qui sont présentées dans l'exposition. C'est aussi une approche documentaire, un regard ethnographique sur différents pans des cultures extra-européennes.
Alors tous ces regards, ces alignés, ils sont extrêmement variés. On va le voir d'ici à la fin de cette émission. Et ce qui marque au départ, hein, quand on entre dans l'exposition, c'est l'exotisme, quoi. C'est l'émerveillement, c'est l'enthousiasme des artistes devant les mondes nouveaux. Je pense que c'est bien de le mettre au pluriel, hein, qui s'ouvrent devant eux finalement grâce au progrès des transports, notamment grâce au progrès de la navigation maritime. D'ailleurs, vous mettez en valeur dans la première partie de l'exposition un terme de marine popularisé par Sandrars, le verbe bourlinguer.
Bourlinguer, oui, cet imaginaire maritime qui est aussi très présent dans la littérature. Je pense aussi à Marseille, Porte du Sud, d'Albert Londres, qui est aussi une ode à ce voyage et à ces ports où se mêlent les hommes, les marchandises, les cultures. Et cette dimension du voyage maritime, elle est essentielle, et elle permet d'évoquer aussi les précédents du voyage pour les artistes. Justement, ces artistes sont attirés par l'ailleurs parce que ça représente une perspective de renouvellement de leur art, des sujets inédits, une lumière autre, une autre palette. Mais avant de partir, ils en ont quelques images, quelques aperçus de ces ailleurs, soit à travers la littérature. Beaucoup des artistes présents dans l'exposition disent dans leurs récits de voyage avoir lu Pierre Loti, avoir lu Joseph Conrad avant de partir, voire d'autres ont fréquenté les expositions universelles et ont vu aussi la représentation de pays lointains. Donc il y a effectivement tout cet imaginaire, tout ce qu'on projette avant de partir loin.
Oui, et la porte d'entrée, c'est souvent le port.
C'est le port, oui. C'est difficile peut-être à imaginer aujourd'hui où il suffit d'un clic pour réserver un billet d'avion pour partir à l'autre bout du monde. Mais c'est un autre rapport au temps et à l'espace. La durée des voyages maritimes, le temps qu'il faut pour se rendre depuis l'Europe jusque dans l'hémisphère sud. L'atmosphère aussi qui règne sur le navire, les compagnons de voyage que l'on rencontre. Et comment aussi on fait partager ces œuvres issues du voyage. C'est aussi par courrier. Là aussi, le courrier passe par la navigation maritime, mais des mois et des mois arrivés, les toiles aussi mettent du temps à arriver.
Alors, il y a quelques scènes portuaires, hein, évidemment, dans l'exposition. Je pense par exemple au port de Saigon, peint par Fouqueray. Fouqueray, qui il y a aussi une scène qui se passe à Jeddah, donc avec des pèlerins en partance pour la Mecque. Et puis il y a aussi évidemment les marchandises sur le port. Il y a Paul Jobert aussi. Ce sont des peintres de marine, en fait, qui à la base ont fait découvrir aux Européens ces scènes-là.
Les peintres de marine ont joué un grand rôle dans cette représentation des lointains et dans la diffusion des images des lointains en Europe. C'est un titre qui apparaît dès 1830. Les peintres de marine existent toujours aujourd'hui. Ils embarquent sur les navires et ils ramènent des images des rivages, mais aussi de l'intérieur des terres lointaines. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans l'exposition, c'est de montrer la diversité des auteurs de ces images. Ça peut être des artistes professionnels, des artistes autodidactes et des marins, des officiers de marine qui, lors de leur formation à l'école navale, ont appris le dessin parce qu'il fallait cartographier, il fallait représenter les côtes, et qui se révèlent habiles dessinateurs, qui emportent leur carnet de croquis et qui, comme Pierre Loti, dessinent pendant leur navigation lointaine.
Oui, Pierre Loti, par exemple, on croise son nom à propos du pandanus, hein, qui est une plante donc qu'on trouve dans plusieurs îles du sud. On en trouve dans l'océan Indien, par exemple, et puis on en trouve aussi à Tahiti, hein. Et d'ailleurs, il y a toute une vitrine comme ça que vous consacrez au pandanus.
Oui, c'est une partie de l'exposition consacrée à la fascination pour une végétation autre, une végétation luxuriante. Et plusieurs représentations de pandanus sont signées effectivement Pierre Loti, mais aussi Henri Matisse, qui passe 3 mois à Tahiti en 1930, qui peint peu, mais qui dessine énormément et qui dessine toutes les circonvolutions de la végétation, ces arabesques.
C'est un vrai travail artistique, c'est pas un travail de botaniste.
Non. Pour certains artistes, au début, il y a une grande proximité avec les botanistes, puisque dans les premières expéditions, les premiers voyages dans le Pacifique, il y a des savants à bord des navires, il y a des cartographes, des hydrographes, des botanistes aussi. Donc, il s'agit de collecter un aperçu du monde, de la nature, donc des espèces végétales qui y sont représentées. Et certains artistes sont influencés par ces modèles-là de botanistes, mais d'autres les réinterprètent avec leur style, avec leur propre manière.
L'artiste réunionnaise Nathalie Atiembe sur RFI qui rend hommage au cirque de Sillaos, un des plus beaux endroits de l'île de la Réunion, ce qui n'a pas échappé sa réalignée au peintre Marcel Mouillot. Alors Marcel Mouillot fait partie de ces peintres autodidactes que vous évoquiez il y a un instant. Et bien Marcel Mouillot, il est allé à l'île de la Réunion et il a immortalisé ce cirque de Sillaos sur ses toiles en 1930. Qui était-il Marcel Mouillot? Parce qu'on ne le connaît quasiment pas.
Oui, son œuvre est tombée dans l'oubli. Pourtant c'est un peintre exceptionnel qui a livré une des représentations exotiques d'une grande modernité. En 1930, il embarque pour l'océan Indien. Il rêvait déjà depuis tout petit de navigation lointaine et il est fasciné par sa découverte de la Réunion et de Madagascar. Et il raconte très bien dans son récit de voyage combien le cirque de Sillaos était encore à cette période un endroit relativement inaccessible. On y allait en chaise à porteurs. La route n'était pas encore achevée et il raconte combien il a été saisi par ce paysage époustouflant, par la montagne, pris de vertige quand il arrive au cirque de Sillaos et son tableau, le cirque de Sillaos, dépeint cette nature faite de montagnes au flanc rocheux très abrupt et une présence humaine qui est à peine suggérée au premier plan de la toile de minuscules personnages qui apparaissent d'autant plus minuscules que la végétation prend des proportions exceptionnelles.
Alors la nature, c'est la végétation, notamment quand elle est grandiose, mais c'est aussi la faune exotique. Et je crois qu'il faut dire un mot d'une pièce de l'exposition que vous consacrez à Jean Dunant, au lac plus exactement de Jean Dunant, un artiste qui est vraiment emblématique de l'art déco.
C'est un des grands noms de l'art déco qui a conçu un époustouflant décor pour le musée des colonies en 1931, de grands panneaux de lac, donc technique d'origine extrême orientale où on utilise la sève d'un arbre que l'on fait décanter, qu'on applique par couches successives sur un support. Et à partir de cette technique, il représente différents aspects de la faune, la flore exotique et des peuples d'Asie d'Asie et d'Afrique. Et c'est un peu un douanier Rousseau. C'est un sédentaire qui n'a pas voyagé sur d'autres continents, mais qui représente un tigre dans la jungle.
Alors, il y a la jungle, il y a le désert aussi, hein, qui fascine et qui fait peur aussi en même temps. C'est un peu ces deux dimensions-là que l'on peut retrouver dans les œuvres que vous présentez.
Oui, donc plusieurs représentations du Sahara algérien par Maxime Noiret, qui a séjourné longuement en Algérie.
Un peintre itinérant.
Oui, qui peignait, qui représentait différentes régions de l'Algérie et qui s'est spécialisé dans les représentations du désert avec des visions panoramiques où il embrasse vraiment l'immensité du territoire. Et on sent que oui, il y a cette fascination, mais il y a aussi une certaine inquiétude face à ces immensités désertiques où l'homme n'a pas forcément sa place.
Oui, avec un vrai travail évidemment sur la lumière, c'est ça aussi qui intéresse évidemment les peintres à l'époque. Alors il y a le désert et puis aussi un autre décor très apprécié et très représenté, ce sont les îles. Et là c'est intéressant parce qu'il y a toute une idée philosophique aussi derrière tout ça, ce fameux mythe du bon sauvage, le mythe de l'âge d'or, du paradis perdu. C'est-à-dire que la dimension picturale, eh bien on peut la comprendre en la rapprochant d'une dimension plus ethnographique et plus philosophique. Également à cette époque-là, Sarah Ligné.
Oui, il est dans les représentations de Tahiti, y compris tout au long du 19e siècle, on retrouve beaucoup des premières descriptions des navigateurs européens qui font escale sur l'île à la fin du 18e siècle, James Cook, Louis-Antoine de Bougainville, qui décrivent l'île comme paradisiaque. Jusque dans les années 1840, qui est une époque vraiment charnière où la Grande-Bretagne et la France s'affrontent pour la possession d'un grand nombre d'îles de la Polynésie. Cet imaginaire paradisiaque de Tahiti perdure dans les aquarelles, dans les tableaux, et on a l'impression d'être face à une nature complètement sauvage et face à une population qui serait préservée de toute influence extérieure.
Oui, c'est-à-dire que la civilisation aurait un effet pervers sur l'évolution de l'être humain, quoi. L'idée, c'est de revenir justement aux origines, à la nature.
C'est une quête des origines, oui, qu'on retrouve aussi à travers différentes théories philosophiques. Cet imaginaire de l'île aussi fait écho à l'imaginaire des Indiens d'Amérique. Ces Indiens qu'on imagine effectivement étant heureux parce que vivant en harmonie avec la nature. Et dans l'exposition, il y a un tableau de François-Auguste Billard qui montre bien cette dimension très romantique de deux Amérindiens en pirogue assez nonchalants, évoluant dans une très belle forêt tropicale.
Ouais. Et puis en même temps, quand même, se développe un autre discours qui est plus le discours il faut civiliser tous ces peuples-là, il faut les évangéliser parce que la religion est jamais très loin, évidemment à cette époque-là. Il n'y a pas une petite contradiction là justement dans cette admiration d'un âge d'or révolu, une volonté de tirer ces peuples du bas vers le haut, hein. C'est un peu comme ça que les gens réfléchissaient à l'époque.
Oui, il y a cette ambiguïté, il y a ces deux dimensions là présentes, celle du conquérant européen qui s'installe, qui veut civiliser, qui veut évangéliser, et cela dès Christophe Colomb, dès le premier pas de Christophe Colomb sur le continent américain. Et pour civiliser, évangéliser, il faut décrire aussi les populations autres comme sauvages, parce que le colonisateur veut justement les faire progresser vers la civilisation. Donc c'est aussi ça s'inscrit en quelque sorte dans la continuité de ce discours-là. On a un mode de vie naturel que les Occidentaux se sont empressés de transformer que ce soit dans des territoires situés sur le continent américain ou dans les îles du Pacifique.
Mais on va en parler plus profondément dans la deuxième partie de l'émission, Sarah Ligné. On va continuer de visiter en votre compagnie cette exposition au musée du Quai Branly Jacques Chirac, en s'intéressant au regard des peintres dont vous exposez les œuvres sur les gens, sur leur façon de vivre, un regard qui révèle souvent une réalité un peu déformée, avec des clichés, avec des stéréotypes, hein, souvent, avec du racisme aussi parfois, il faut le dire, avec très souvent aussi des visées et des applications politiques, voire géopolitiques. On en parle donc dans la deuxième partie de l'émission, juste après le flash, et vous m'en direz des nouvelles.
Comment dire et des nouvelles ? Jean-François Cadet.
VMDN avec Sarah Ligné qui nous fait visiter l'exposition Peinture des Lointains au musée du Quai Branly Jacques Chirac jusqu'au 6 janvier 2019. Et nous voici, Sarah Ligné, dans le souk ou sur un marché à ciel ouvert en Algérie. Et là, on se dit, à l'instar d'André Soureda, que pour un peintre occidental à l'époque, ce genre de scène, dans ces endroits-là, c'est une véritable aubaine.
Oui, c'est le goût du pittoresque, mais un goût qui perdure aujourd'hui. Ouvrez un guide de voyage, quand vous allez dans un lieu lointain, on vous dira d'aller au marché, voir la diversité des couleurs, sentir la diversité des saveurs. Et c'est le cas, oui, lorsque ces artistes comme André Soureda, comme aussi Pierre Reinmann, représentant le grand marché à Tananarive, ce sont dans ces rassemblements, dans ces foules, les artistes y voient une grande diversité de couleurs, d'étoffes, une animation à la surface de la toile à travers la diversité des figures ainsi rassemblées.
Alors il y a l'animation, il y a l'exotisme également. Alors on est obligé de dire un petit mot sur l'orientalisme. Sarah Ligné qui déferle vraiment sur l'Europe. Enfin ça fait vendre aussi. Faut pas l'oublier. Qu'est-ce qui attire autant les Européens à l'époque dans l'Orient ?
Le 19e siècle, et oui, pour les artistes, surtout les peintres, vraiment le voyage en Orient par excellence, surtout le voyage en Afrique du Nord et au Proche-Orient, et ceci s'explique aussi par des événements politiques comme la campagne de Bonaparte en Égypte, la conquête de l'Algérie. Donc certains de ces premiers artistes qui accomplissent le voyage en Afrique du Nord, au Proche-Orient, le sont dans le sillage de militaires. D'autres y vont avec des savants, des botanistes. C'est le cas, par exemple, comme de Prosper Maria, dont une toile mosquée dans la basse Égypte est présentée dans l'exposition. Et peu à peu, au cours du 19e siècle, les voyages vont se diversifier, les séjours vont se faire aussi de plus en plus longs. On ne va pas ramener que des impressions de voyages fugaces, furtives, mais d'autres artistes vont chercher à représenter avec exactitude la vie quotidienne en Afrique du Nord.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors plus globalement, Sarah Ligné, quel regard les peintres portent-ils sur les populations extra-européennes ? Est-ce que c'est un regard admiratif ? Est-ce que c'est un regard que l'on peut qualifier de supérieur ou de méprisant, un regard de colon à coloniser ?
Il n'y a pas un, mais des regards, et c'est ce que montre l'exposition, que beaucoup de représentations au cours du 19e siècle sont largement dans le sillage de la théorie des races dominantes dans les milieux scientifiques, des représentations de type humain, mais pas des représentations d'individus, de personnalités. Et cela évolue aussi, d'autres regards d'artistes sont présents dans l'exposition. Des artistes qui revendiquent une approche plus documentaire, qui se veulent effectivement précis, exact, objectif, quand ils représentent des modèles de culture qui leur sont étrangères, et aussi des préoccupations qui peuvent d'être d'ordre purement artistique. On fait de la peinture avant de faire le portrait de quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi une démonstration d'une facture, d'une palette.
Oui, donc on peut pas parler réellement d'un aspect documentaire finalement à travers ces tableaux-là.
Non, pas seulement. Et beaucoup d'artistes aussi, ce sont des faits de préjugés ambiants et sont allés ont exprimé toute cette curiosité pour l'autre, pour l'ailleurs. Et on peint aussi, je pense à Paul Mascar en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu. Il a peint ses modèles avec une très grande sensibilité, une proximité entre l'artiste et le modèle, et effectivement la représentation de personnalité, d'individu avant tout.
Alors il y a tout de même une section dans l'exposition intitulée « Dénigrer l'autre », ce qui est quand même très très fort, y compris quand on se prétend artiste. Par exemple, André Herviaux, qui a fait des tableaux où on voit effectivement, et c'est assez saisissant, une différence sociale, enfin c'est visuel quoi, vraiment, entre les colonisateurs, alors il y a les constructeurs, il y a les administrateurs, et les autres qui sont là sur la même scène et qui eux travaillent.
Oui, André Hervieux, on le retrouve en deux lieux du parcours de l'exposition. Il a peint Zounon, portrait du roi de la nuit à Porto Novo, au Bénin, oui. qui est une œuvre issue d'une initiative individuelle où là, il y a un regard très 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 sensible, très très proche du modèle. Mais il exécute aussi sur commande des œuvres de propagande pour l'exposition coloniale de 1931 notamment, et c'est le cas avec la série que vous évoquez. Et là, le sujet est dicté à l'artiste et son pinceau se met au service de la propagande pour vanter les soi-disant bienfaits de la colonisation.
Oui, parce qu'on peint la conquête. Hein, aussi, par exemple, il y a toute une partie de l'exposition où il y a des portraits de Savorgnan de Brazza en Afrique centrale. Il y a aussi Paul Crampel, Madame, qui illustre les expéditions de Paul Crampel, son mari, qui était le secrétaire particulier de Brazza. Donc, on rend hommage à ceux qui propagent la bonne parole, si j'ose dire, dans les contrées africaines, notamment.
Oui, c'est une célébration des explorateurs qui commence dès la seconde moitié du 19e siècle, à travers les récits d'exploration publiés dans les journaux, dans la presse de l'époque, avec des illustrations gravées, le tour du monde, le monde illustré, exploite aussi cette dimension des exploits des explorateurs. Paul Crampel donc est allé effectivement en Afrique et sa femme qui ne l'a pas suivi réalise les dessins.
Elle est restée à terre. C'est à travers les récits de son mari qu'elle peint cette toile.
Qu'elle dessine et que les gravures sont ensuite diffusées dans la presse. Mais oui, il y a une section de l'exposition qui montre cette mise en scène de l'aventurier, du conquérant, depuis les portraits d'explorateurs jusqu'aux portraits de ministres, d'administrateurs coloniaux.
Est-ce que vous rangeriez dans la même catégorie les grandes fresques de Géo Michel qui montrent les bienfaits de la colonisation, la production économique d'une certaine façon aussi qui est celle des colonies?
Oui, on est dans le prolongement de cette peinture de propagande. Il a d'abord fallu montrer aux Français, à travers l'image de propagande, la grandeur de l'Empire et les multiples images des colonies. Et en 1931, au moment de l'exposition coloniale, ce qu'on montre aussi, c'est les perspectives d'échange, les produits, l'économie coloniale. Et c'est ce que peint Géo Michel quand il représente les différents produits d'origine animale, d'origine végétale. Une peinture très pédagogique qui identifie en lettres dorées chacun des produits, mais une peinture mensongère qui ne dit rien de la manière dont cette main d'œuvre est employée dans les colonies.
Et puis aussi Jeanne Till, qui en commande 9 grandes toiles pour une autre exposition, l'exposition universelle de Bruxelles, quelle année ?
Bruxelles en 1935.
Voilà. Et on a un peu... Enfin, j'exagère un peu, mais on a parfois un peu l'impression d'affiches touristiques, d'une certaine façon, pour faire la promotion finalement des colonies.
Oui, ce sont de belles images séduisantes, des images séduisantes de l'ailleurs, et c'est ce que souhaitent aussi les organisateurs des sections Beaux-Arts, des expositions coloniales, des expositions universelles. Il faut donner aux Français l'envie d'investir, de se rendre dans les colonies. Donc il faut aussi leur montrer de belles images et les peintres participent à cette propagande visuelle.
Est-ce que ça veut dire que les peintres cachent ce qui ne va pas, cachent les horreurs de la colonisation, et même pas seulement les horreurs, les dérives tout simplement? Ils sont complices?
Et ils le sont d'une certaine manière dans ces œuvres exécutées sur commande. C'est vrai qu'au moment de l'exposition coloniale de 1931, il y a eu la contre-exposition organisée par la Ligue anti-impérialiste, par le Parti communiste français et auquel se sont joints aussi les artistes surréalistes. Mais c'est une exposition de documents. Il n'y a pas vraiment eu parmi les surréalistes production d'œuvres qui mettraient en scène l'exploitation humaine dans les colonies ou d'autres dénonciations. Mais on le retrouve par contre dans la littérature des dénonciations, effectivement, qui sont d'ailleurs rassemblées dans le catalogue de l'exposition.
mene dans mon jardin, j'ai dit Maurice. Ça même si l'île pour moi n'appelle pas les Virginies. Ça m'est oublié dans la vie, ça même si l'île l'église dans ce l'île. Il y en a des tours pour ma canacite qui ça m'est manqué. J'ai des enfants qui s'amènent, j'ai qu'à pas s'en passer un second. Moi des attentes, Dieu vient, j'ai dit, j'ai pris une dizaine de filles dans mon riz, ça même, ça t'y colle là, ça m'est dit qu'à pas qu'il se vienne.
Paul et Virginie, Francis Salomon et le Typhoon Band en 1971. On est évidemment à l'île Maurice dans l'océan Indien. Paul et Virginie, le roman de Bernard Dan Saint-Pierre qui se passe précisément là-bas. Et vous lui consacrez une petite salle, hein, Sarah Ligny, à ce roman et à la façon dont il a inspiré les peintres. C'est drôle parce que aujourd'hui, Paul et Virginie n'est pas considéré à tort ou à raison comme un roman indépassable de l'époque, mais pourtant, si on se replace dans le contexte historique, il a eu un succès phénoménal.
Il y a eu un incroyable engouement pour le roman tout au long du 19e siècle, et la salle consacrée à Paul et Virginie dans l'exposition ne montre qu'une petite partie de l'immense ensemble qui est conservé dans les collections, plus de 200 pièces relatives au roman, de très nombreuses éditions illustrées, la première édition n'était pas illustrée, mais dès l'année suivante, il y a eu production de gravures, et cela a continué tout au long du 19e siècle avec des traductions en langues étrangères, une large diffusion du roman et un roman qu'on aimait dans ses intérieurs. Il y a eu des papiers peints, Paul et Virginie, éventails, Paul et Virginie, des assiettes, Paul et Virginie. C'était vraiment le récit exotique par excellence.
Et comment est-ce que vous expliquez justement le succès de ce livre et l'importance qu'il a eu dans l'aspiration artistique?
C'est un roman qui décrit effectivement un imaginaire exotique avec une grande place accordée à cette description d'une vie en harmonie avec la nature, de ces deux enfants qui sont effectivement décrits comme d'une pureté d'âme parce que vivant dans cette nature paradisiaque. C'est une histoire d'amour tragique et c'est effectivement un roman, alors aux accents mièvre, sentimentaliste, mais qui pouvait être lu aussi bien par des enfants que par des adultes. Et cette présence des œuvres de Paul et Virginie dans les collections s'explique aussi par le fait que le directeur du musée de la France d'Outre-mer, Harry Leblon, était d'origine réunionnaise. Il avait consacré une salle au roman au musée Léon Dierks à La Réunion. Et il a favorisé aussi cet ensemble dans un musée qui consacrait une large partie de son parcours à l'influence de l'exotisme dans l'art et la littérature française.
Beaucoup de portraits également dans votre exposition, Sarah Ligny, pour essayer notamment de mettre en évidence le regard que les peintres, et plus globalement à travers les peintres, les sociétés occidentales du 19e ou de la première partie du 20e siècle portaient sur les peuples colonisés. Par exemple, un peintre américain qu'on a déjà évoqué dans cette émission, collaboration avec l'écrivain Patrick Grainville. Je pense à George Catlin et son travail sur les Indiens d'Amérique avec des portraits absolument saisissants.
Oui, George Catlin avait choisi de diffuser, de faire connaître les cultures amérindiennes en faisant leurs portraits peints, en collectant des objets et en organisant ce qu'il a appelé un musée indien qu'il a fait circuler en Europe. Et lorsqu'il rencontre le roi Louis-Philippe en 1845 à Paris, Louis-Philippe lui commande des copies de ses portraits et qui, par une histoire des collections très complexes, sont aujourd'hui conservés au musée du Quai Branly. Mais ce sont trois portraits qui sont présentés dans l'exposition et qui sont aussi différents âges presque de l'homme. Un jeune guerrier qui est pourtant déjà commandant en chef et d'autres représentations de guerriers d'âge plus avancé.
Est-ce qu'on peut parler à travers Catlin d'un travail ethnographique ?
Catlin, oui, appartient à une certaine approche ethnographique en s'intéressant à différents aspects des cultures amérindiennes, en cherchant à les représenter de manière assez objective, en aussi collectant les objets produits par ces cultures, en montrant aussi d'autres aspects plus immatériels de leur culture, les chants, la danse, mais quand il les présente aussi en Europe, quand il organise ses spectacles, il y a aussi un caractère d'exhibition déjà, ces exhibitions d'hommes et femmes étrangers qu'on retrouvera au Jardin d'Acclimatation dans les expositions universelles.
Oui, avec des dérives là aussi, enfin des dérives avec notre regard actuel, hein, parce qu'évidemment à l'époque ça choquait pas forcément beaucoup les Occidentaux, mais c'est vrai que il y a des notions très importantes comme ça que les peintres reprennent dans leur tableau concernant la morphologie, la hiérarchie des races, la conception évolutionniste, hein, finalement des notions qui aujourd'hui font absolument hurler et à l'époque c'est comme ça que l'Occident regardait le reste de la planète.
C'est effectivement une forte influence de ces théories scientifiques. C'était des théories qui dominaient dans les milieux scientifiques, pseudo-scientifiques effectivement, mais qui ont eu une idéologie dominante et auxquelles beaucoup d'artistes n'ont pas pu échapper parce que des artistes qui par exemple accompagnaient des expéditions, des navigations dans le Pacifique étaient aussi avec des savants, des personnes qui allaient réaliser des moulages sur le vivant, des bustes anthropomorphiques pour classer les différentes populations suivant effectivement des critères physiques, suivant ce qu'on appelait alors des races.
Oui, alors il y a effectivement cette dimension ethnographique-là et puis il y a une dimension plus sociologique, et là ça rappelle peut-être un peu plus le travail contemporain des scientifiques aujourd'hui, quand on s'intéresse par exemple au rituel, par exemple la danse du feu au tam-tam, une œuvre de Reboussin que vous exposez, Sarah Ligné.
Oui, c'est une section qui est consacrée à ce rapport au mystérieux et à l'étrange, à des formes de pratiques culturelles que les artistes observent mais dont ils ne comprennent pas forcément le sens profond. Donc il y a cet aspect très performatif qui les intéresse, qui les frappe, des rituels masqués, chantés, dont ils représentent une vue très superficielle en fait de ce qui effectivement ils ont sous les yeux, ou alors dans d'autres toiles, comment rendre le caractère sacré d'un lieu. C'est le cas pour Willy Worms quand il représente l'une des collines sacrées de Tananarive.
Ouais, et là ce sont des peintres qui se sont déplacés sur place, qui ont pu voir de visu ce qu'il s'y passait.
Oui, ce sont des peintres qui ont séjourné dans telle ou telle région du monde. Il y a peu d'artistes dans l'exposition qui sont des sédentaires et qui imaginent les lointains. La plupart, effectivement, ont voyagé. Le plus célèbre, c'est Gauguin, qui est parti en Polynésie, à Tahiti et aux îles Marquises. Mais l'exposition permet de découvrir beaucoup d'autres de ces artistes au parcours méconnu.
Oui, et puis il y a aussi des artistes auxquels vous rendez hommage dans la dernière partie de l'exposition, qui se sont installés provisoirement ou plus durablement sur place, en particulier à Madagascar et en Indochine, et dont l'art a irrigué les artistes locaux.
Oui, c'est effectivement tout un système artistique qui est mis en place à la période coloniale avec des sociétés d'artistes qui encouragent les voyages dans les colonies, qui décernent des bourses de séjour qui permettent à tel ou tel artiste d'aller en Afrique occidentale française, à Madagascar, en Indochine. Et souvent, en contrepartie, surtout à Madagascar et en Indochine, il y avait obligation pour l'artiste lauréat d'enseigner dans l'école des beaux-arts créé dans la colonie, donc de participer à cette diffusion du modèle occidental.
Et ça veut dire que les artistes locaux ont été influencés justement à travers eux pour qu'ils puissent orienter leur discipline vers ce fameux modèle occidental. Il y a une forme de colonisation culturelle, si j'ose dire.
Il y a une forme, oui, c'est cette revendication de cette mission civilisatrice du colonisateur, elle passe aussi par la partie artistique, par les beaux-arts, mais cela s'accomplit pas nécessairement qu'à travers les écoles de beaux-arts. L'exposition le montre à travers les œuvres de peintres malgaches de la fin du 19e siècle, à qui les missionnaires britanniques avaient enseigné l'aquarelle, une technique de la perspective. Et il y a plusieurs œuvres présentées dans l'exposition de Joseph Razafinsen, de Louis Raoulin, qui portraiturent les différentes populations de Madagascar.
Oui, par exemple, de Louis Raoulin, il y a ce portrait d'un bourgeois malgache, vous pouvez en dire un petit mot ?
Un portrait en pied, un portrait à l'aquarelle sur coton, qui est d'une fraîcheur de coloris incroyable pour avoir été peint à la fin du 19e siècle, avec une très grande précision dans les détails du costume porté par l'homme et un regard incroyablement vivant qui vient se plonger dans l'œil du spectateur.
Merci beaucoup Sarah Ligny d'être passée nous voir. On l'a entendu, hein, énormément d'œuvres d'une très très grande diversité et chacune de ces œuvres peut se rattacher à une petite et à la grande histoire. En même temps, l'une des grandes forces de cette exposition Peinture des lointains que l'on peut découvrir. On a le temps, mais vous le disiez tout à l'heure, les œuvres vont faire une rotation, donc on peut y aller effectivement à plusieurs reprises au musée du Quai Branly Jacques Chirac. C'est jusqu'au 6 janvier 2019. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et direction Londres, vous l'avez compris, avant de se quitter, direction plus précisément l'église Saint-James dans le quartier de Piccadilly. C'est là que sont suspendus jusqu'à la fin de la semaine 700 habits de réfugiés à l'initiative d'une artiste qui entend interpeller les Britanniques sur le sort des migrants. Reportage pour VMDN d'Alexander Seal.
Elle s'appelle Arabella Dorman. Pour créer son gigantesque œuvre d'art sur la catastrophe des réfugiés, elle a récolté des habits abandonnés par des personnes en fuite qui sont exposés en ce moment dans la nef de l'église Saint James à Londres.
L'exposition est le résultat d'un voyage que j'ai fait à Lesbos en 2015, quand j'ai lu que beaucoup d'Afghans et d'Irakiens venaient à Lesbos fuyant la guerre et la persécution.
Cet artiste de guerre a déjà décrit les conflits et les souffrances en Afghanistan et en Irak, et a été bouleversée sur les sorts des migrants. Elle raconte son voyage à Lesbos.
I felt a personal connection to this crisis and I thought it needed to be documented.
J'ai ressenti un lien personnel avec cette crise et je pensais que cela devait être documenté. Cependant, rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vu. C'était une étape du drame humain et une tragédie. L'une des choses qui m'a frappée, ce sont les milliers de vêtements qui ont été jetés partout par les réfugiés au fur et à mesure de leur voyage. Et j'étais frappée de la puissance invoquée par un vêtement vide et de la façon dont elle évoque cette présence cachée.
Pour Arabella Dorman, la crise migratoire en 2015 était comme une exode biblique. L'artiste l'a évoqué pour son exposition Flight, une installation qu'elle a faite il y a 2 ans. Un bateau gonflable symbolisant tous les dangers de la traversée des migrants.
J'ai accroché 3 gilets de sauvetage comme s'ils sortaient du bateau.
Afin de transporter les habits au Royaume-Uni, l'artiste britannique a travaillé avec une ONG, Starfish Foundation. Arabella Dorman raconte y avoir fait expédier 1400 vêtements dans 27 boîtes. Les visiteurs sont frappés par la force de cette œuvre suspendue devant eux. Pour Joan, qui a entendu parler de Suspended sur une page Facebook, pense que ces réfugiés ont exactement la même vie que les citoyens en Grande-Bretagne.
Je trouve ça vraiment dérangeant. Cela incarne en quelque sorte les personnes qui les possédaient. Cela vous rappelle que ce sont de vraies personnes. Ce sont de vraies vies. Ces personnes ne sont pas différentes de nous. Nous oublions qu'ils ont la même vie que nous et portent des chaussures identiques à nous. Il y a un t-shirt particulièrement émouvant qui a l'air d'appartenir à un petit garçon avec comme inscription « Je suis le petit gars de maman », qui est exactement le genre de vêtements que nous porterions ici. Cela vous fait réaliser que nous sommes tous les mêmes sur cette planète.
Marc, qui visite cette église anglicane de St. James une fois par mois, était bouleversé par l'aspect visuel de cette œuvre.
Oui, c'est la simplicité, mais un message puissant et c'est très évocateur. Cela reste dans votre mémoire plutôt que dans les mots. C'est très visuel et puissant.
Rabella Dorman espère emmener ce Spended dans d'autres villes au Royaume-Uni et aux États-Unis, car selon elle, la crise migratoire est un sujet important en Amérique.
Et à partir de là, je continuerai à sensibiliser sur la crise des migrants, ce qui nous amène également sur le sujet du réchauffement climatique et le changement climatique, car c'est l'un des facteurs déterminants de toute cette crise.
Reportage d'Alexander Seal dans VMDN. Dans un instant, l'info sur RFI, on se retrouve demain avec le chanteur Arthur H pour son nouvel album Amour Chien Fou, disponible sous le label Believe, et vous m'en direz des nouvelles.
This ain't a story, it's a fact. Regardless where you at, don't sit back, act now. This ain't a story, it's a fact. Regardless where you at, don't sit back, act now.